VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Bangui en Centrafrique. Violence donc en Centrafrique, des affrontements entre groupes armés ont fait de nouveaux morts dimanche à Bangui. Des règlements de compte entre des groupes d'autodéfense dans le quartier musulman du PK5 auraient fait une dizaine de morts selon un bilan de sources locales non encore confirmé par la mission des Nations Unies en Centrafrique, désormais en première ligne face aux groupes armés. Ces violences interviennent alors que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, officialisait ce lundi la fin de l'opération militaire Sangaris, lancée en décembre 2013 pour mettre fin aux violences et au chaos. Référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire, aucun chiffre officiel n'a été fourni après le vote de dimanche, mais la participation semblait assez basse selon l'agence Reuters, bien en dessous des 54,5% enregistrés lors de la présidentielle l'an passé. L'opposition avait appelé au boycott du scrutin et des groupes de jeunes ont perturbé le vote, saccagé ou emporté du matériel électoral dans plusieurs villes du pays. Ce fut le cas par exemple à Gagnoua, le fief de l'ex-président Laurent Gbagbo. Pour un témoignage, écoutons Yacouba Silla.
Nous avons constaté dans des villages, il n'y a pas eu de vote. Ça, il faut dire la vérité, il n'y a pas eu de vote. À Maman, c'est dans certains villages à Ouragayo, même dans la ville à Gagnoua. Nous avons constaté à Babré, Garayo, Katé-Soleil, tous les bureaux de vote ont été saccagés. Mais c'est les bureaux qui sont vers le commerce du Labourou. Là, il n'y a pas de souci, les gens ont voté normalement.
Et quel est votre sentiment? Est-ce qu'il n'y a pas eu de précipitation dans la tenue de ce référendum?
Bon, précipitation, ça a été prévu déjà à la campagne du président de la République. Il a tenu à changer la constitution. Donc, pour nous, ça a été déjà prévu dans son mandat. Pour nous, ce n'est pas une précipitation. Il a consulté toutes les couches socio-professionnelles, les communautés et consorts. Donc, je crois que ce n'est pas une précipitation.
Mais est-ce que ça ne prouve pas que le pays est loin d'être réconcilié alors?
Ça, la réconciliation, ça, il faut dire, nous avons recours qu'en Dieu. Mais il faut qu'on comprenne que nous sommes ensemble, nous pouvons nous réconcilier sans l'ONU-ci, sans la communauté internationale. Il faut que nous nous asseyons pour dire que la Côte d'Ivoire nous appartient. Elle est seule et indivisible.
Yacouba Silla, joint à Gagnoua par Idriss Fall. Au Mali, assassinat, attaque à main armée, insécurité croissante à Bamako. La peur et la violence se sont installées dans la capitale et ses alentours. Pour le seul mois d'octobre, 3 attaques ont eu lieu, faisant des victimes et des blessés graves. Il y a eu la récente attaque d'une rare témérité d'Ecobank. À Bamako, rejoignons notre correspondant Kassim Traoré.
Le braquage de la semaine passée devant le siège d'Ecobank est resté à travers la gorge de pas mal de Bamakois qui n'ont pas compris l'inactivité des forces de sécurité au moment de ce braquage.
C'est-à-dire le chemin que les bandits ont pris pour prendre la fuite, ils ont dépassé des policiers pour continuer sans que ceux-ci réagissent. C'est inexplicable.
La journée du jeudi 27 octobre 2016 est encore dans la mémoire de bon nombre de jeunes, surtout les étudiants de la faculté des lettres qui ne sont pas loin du siège d'Ecobank.
On voit que réellement, le gouvernement ne joue pas pleinement son rôle. Donc on voit que la population est exposée à des dangers.
Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, des mesures ont été prises. Des interpellations ont commencé au niveau des différents commissariats de la capitale. Bakunkane, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile.
Il y a eu des interpellations. Je ne saurais vous parler spécifiquement du nombre de personnes interpellées ou de l'identité des gens qui ont été interpellés.
Parmi les personnes interpellées, il y a des travailleurs d'un garage d'où est partie la plaque de la voiture des braqueurs. L'enquête se poursuit au niveau des différents commissariats. Même le téléphone de la victime est en train d'être analysé par les enquêteurs. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, les jeunes s'intéressent non seulement à la politique, mais un nombre d'entre eux se sont aussi déclarés candidats aux prochaines élections communales. Ils bénéficient même du soutien du mouvement social, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara, reportage.
Hey, s'il te plaît, laissez ça parler.
Comédien aux heures de pointe pour quelques billets de francs guinéens.
Moi, je suis marié. Je suis 2 enfants, 1 fille, 1 garçon.
Alia fait partie de ceux qui soutiennent les candidats jeunes.
Mais le politicien là, à l'air là, c'est pas travail avec le jeune. Et l'homme travaille seulement avec le fils. Il n'aime pas avec le jeune de Conakry. Au nom de Dieu, ça ne va pas le patron.
Il n'est pas dans presque dans un parti politique. Un jeune indépendant, c'est quelqu'un qui n'a pas de couleur, quoi. C'est quelque chose qui peut résoudre notre problème.
Manque d'eau, mais aussi l'insalubrité sont cités parmi les problèmes des communes. La solution pourrait venir des maires jeunes. Dans la capitale, on y croit.
On doit faire une rupture. Les jeunes doivent se débarrasser des politiques, politiciens, des vieux. Parce que vous n'allez pas sans savoir que les vieux d'aujourd'hui qui nous commandent, nos élites africains, en Guinée en général, ont failli à leur devoir.
Échec du système, envie de renouveler la classe politique, tels sont les objectifs d'un mouvement lancé par les jeunes au lendemain de la signature des accords politiques à Conakry. Alpha Bakar Bari est membre du mouvement Liste Citoyenne. Son mouvement apporte un soutien aux candidats indépendants.
L'aide est d'abord intellectuel. Ce que nous voulons apporter à ces gens, c'est d'abord l'assistance juridique pour qu'ils comprennent la loi et comment la loi fonctionne. Dans la constitution, par exemple, de leur caution de candidat, la constitution de la caution, les opérations de campagne, etc., etc., ce sont des choses que nous voulons améliorer. Ce sont des supports que nous voulons apporter justement aux candidats.
Une dizaine de candidats travaillent avec le mouvement. Ils défendent tous une nouvelle voie pour les jeunes. Badra Kone et Amadouba sont deux jeunes candidats aux prochaines communales.
Vous avez appris à des gens un système qui, par le fait du temps, prennent conscience de la chose. Il y a une révolte. Les partis politiques ont instauré un système qui les rattrape aujourd'hui. C'est-à-dire donner de l'argent aux gens, les utiliser à leur fin politique.
Il y avait là le dégoût, mais puisque les gens n'avaient pas une alternative, ils étaient cantonnés. Et donc, comme ils ont su qu'il y a cette possibilité, il y a une autre voie que celle dans laquelle on veut les encercler, c'est tout de suite qu'ils ont sauté dans l'occasion.
Les élections communales sont prévues au mois de février de l'année prochaine. Plusieurs jeunes Guinéens espèrent se retrouver à la tête des communes à l'issue de ces élections. De son côté, le mouvement Liste Citoyenne dit vouloir se battre pour que soient possibles les candidatures indépendantes aux élections nationales, c'est-à-dire les présidentielles et législatives. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
On va en Éthiopie, confronté à la contestation la plus grave depuis son accession au pouvoir en 1991. Le régime éthiopien court le risque de s'enliser dans la crise si les promesses de réforme ne sont pas appliquées, estiment les chercheurs et les analystes. L'état d'urgence imposé depuis le 9 octobre pour 6 mois sur tout le territoire a jeté une chape de plomb. Plus de 2500 arrestations ont eu lieu ces dernières semaines, selon un décompte des autorités d'Addis Abeba. L'Internet mobile et les réseaux sociaux sont bloqués pour empêcher la diffusion d'appels à manifester. La justice sud-africaine a abandonné les poursuites pour fraude engagées il y a 3 semaines contre le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Une affaire à l'origine de vives tensions politiques au sein du gouvernement, a annoncé aujourd'hui le procureur général. J'ai décidé de renoncer à la décision de poursuivre M. Gordhan et ses deux co-accusés, a déclaré Shaun Abrahams lors d'une conférence de presse, affirmant qu'il était convaincu qu'il n'avait pas eu l'intention d'agir contre la loi.
VOA Afrique en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, l'équipe de campagne d'Hillary Clinton tente de reprendre l'initiative dans l'affaire des mails privés qui plombent la campagne de la candidate démocrate depuis le début et qui ressurgit au pire moment, à 10 jours seulement de la présidentielle du 8 novembre. Les secrétaires d'État pensaient être débarrassés de cette affaire qu'elle porte comme une croix depuis les primaires et qui a contribué à accentuer la désaffection de l'opinion publique à son égard. L'annonce faite vendredi par le directeur du FBI, James Comey, de l'ouverture d'une enquête, est une bénédiction pour Donald Trump qui ne cesse de demander que sa rivale soit jetée en prison. Les forces spéciales irakiennes sont reparties aujourd'hui à l'offensive sur le front est de la bataille de Mossoul. Après une pause de quelques jours, annonce l'armée dans un communiqué. L'objectif est de reprendre la rive orientale du Tigré qui traverse la grande ville du nord de l'Irak. Ce fleuve donc qui traverse la grande ville du nord de l'Irak. L'offensive sur Mossoul, qui est de loin la plus grande ville tenue par les djihadistes de l'organisation État islamique, est entrée ce lundi dans sa 3e semaine. On estime à 1,5 million le nombre d'habitants qui sont toujours pris au piège dans la ville et les Nations Unies redoutent une crise humanitaire et un exode de réfugiés à mesure que les affrontements se rapprocheront de la ville. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Bon après-midi à vous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.